entier, c'est votre avis.
Eric Manilakiza, toujours avec vous. Bienvenue dans ce bulletin d'information. Il est 14h ici à Washington, 19h en temps universel. Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La Guinée vient de marquer son but dans les dernières minutes du temps additionnel, alors que la Guinée équatoriale et la Guinée s'acheminaient vers les prolongations. Il faut aussi signaler que la Guinée a profité de sa supériorité numérique, mais de l'autre côté, la Guinée équatoriale a raté un pénalty qui allait lui donner donc un avantage. Si rien ne change, la Guinée devrait donc arracher son ticket pour les quarts de finale. L'Angola et le Nigeria sont les deux premiers qualifiés pour les quarts de finale de cette CAN après leur victoire respective contre la Namibie 3-0 et le Cameroun 2-0. C'était hier samedi. La CEDEAO s'est déclarée prête ce dimanche dans un communiqué à trouver une solution négociée à l'impasse politique après l'annonce de retrait de l'organisation du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Les dirigeants des trois États sahéliens ont affirmé prendre cette décision en toute souveraineté, répondant aux attentes de leur population. La CEDEAO dit attendre encore la notification formelle et directe de cette décision. Ces pays, tous confrontés à des problématiques d'insécurité, de djihadisme et de pauvreté, entretiennent des relations tendues avec la CEDEAO depuis les prises de pouvoir militaire en 2020 au Mali, en 2022 au Burkina Faso et en 2023 au Niger. L'Ordre des avocats du Cameroun a réclamé cette semaine l'ouverture d'une enquête par le parquet après que plusieurs dizaines de témoignages de femmes se disant victimes d'agressions sexuelles par un homme d'affaires camerounais ont provoqué un tollé sur les réseaux sociaux. Le barreau exhorte aussi le parquet à traduire un agresseur présumé devant la justice. La ministre de la promotion féminine de la promotion de la femme et de la famille se réjouit de la saisine des autorités judiciaires et encourage les victimes à briser le silence et à fournir aux autorités judiciaires les éléments nécessaires à la conduite des procédures destinées à établir la matérialité des faits. Le président algérien a dit soutenir le Soudan face à une conjoncture difficile en réservant un accueil solennel au général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée soudanaise, arrivé ce dimanche pour une visite officielle de 2 jours à Alger. 6 personnes, dont 4 enfants, ont été tuées lors de l'explosion d'une bombe artisanale dans l'état de Borno, dans le nord-est du Nigeria. La bombe a explosé hier samedi alors que 2 personnes récupérant des métaux pour les revendre triaient des déchets ramassés dans la brousse près de la ville de Goubio, selon un responsable local et 2 miliciens anti-djihadistes. 3 militaires américains ont été tués, 25 blessés dans une attaque au drone en Jordanie, a annoncé ce dimanche Washington. Le président Joe Biden menaçant de représailles les auteurs et désignant des groupes pro-Iran comme responsable. C'est la première fois que des soldats américains sont tués au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, ce qui fait craindre une escalade des tensions encore plus grande dans la région. Des contacts ont eu lieu ce dimanche à Paris entre le directeur de la CIA et de hauts responsables de l'Égypte, du Qatar et d'Israël afin de discuter d'un accord de trêve dans la guerre à Gaza, ont indiqué des sources proches des participants à ces réunions. Ces 4 pays ont également des contacts avec les autorités françaises, selon les mêmes sources, l'objectif étant de progresser vers un accord comprenant une trêve dans les combats et la libération des otages détenus par le Hamas. À New York, Antonio Guterres a exhorté les pays donateurs qui ont suspendu leur financement à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens à au moins garantir la poursuite de ces opérations essentielles à 2 millions de Gazaouis. Et cette suspension intervient après l'annonce ce vendredi que 12 de ses employés étaient suspectés d'avoir participé à l'attaque du Hamas. Et c'est la fin de ce bulletin d'information.
sur VOA Afrique.
Voix et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs et bienvenue dans le dialogue des religions. Eric Mandakiza avec nous, Josèle Morissa assure la mise en onde. Ce soir, nous parlons de la perception du vaudou par l'intellectuel et plongeons dans les réflexions et perspectives des esprits érudits sur cette pratique spirituelle profondément ancrée dans diverses cultures. Au cours de cette édition, nous découvrons comment les intellectuels abordent le vaudou, mêlant tradition, croyance et analyse critique. Restez donc à l'écoute pour une exploration fascinante de cette connexion entre la spiritualité et la pensée intellectuel. On sera tout à l'heure en ligne avec le docteur Florent Estache Essou, qui est sociologue, il est au Bénin, et le professeur Dodji Amouzouvi. Nous essayons d'établir la communication avec nos invités. Nous marquons une petite pause avant de retrouver nos invités. Nous avons notre invité, c'est Florent Eustache Issou. Docteur Florent, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, merci d'être là, d'être avec nous. Nous essayons également d'établir la communication avec le professeur Dodji Amouzouvi qui sera avec vous dans cette émission. Vous êtes sociologue. Comment vous percevez le rôle du vaudou dans la société moderne du point de vue de la sacralité et de la spiritualité?
D'abord, merci à vous. Je me sens vraiment... je ne sais pas si je serai à la hauteur de la tâche si vous me mettez en face de mon patron. Mais bon, on va essayer quand même de faire l'exercice puisque l'objectif fondamental est de parler du vaudou. De parler du vaudou qui a été victime de désinformation, qui a été victime de déconstruction. Vous savez, c'est grâce au vaudou que les esclaves ont pu s'affirmer dans l'outre-mer. Quand on a voulu les vendre, on les a vendus la main attachée dans le dos. Mais étant entendu qu'ils avaient le vaudou en eux, ils l'ont développé et c'est par le vaudou qu'ils ont réussi toutes les révolutions. Vous savez très bien que la première révolte a été menée par Toussaint Louverture, Toussaint Balada, et puis donc le rôle du vaudou dans tous les temps et dans tous les espaces a toujours été fondamental. Et quand vous parlez de vaudou dans la société moderne, j'en ai parlé dans la société transversale, c'est-à-dire que c'est d'hier à demain, puisque le vaudou c'est l'homme. Il n'y a pas d'espace ou de temps réservé pour le vaudou, puisque l'être humain est fondamentalement composé des quatre éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Alors, quand on dit la terre, c'est Vodou Sakata. Je salue le pontife Avimangeno, mon directeur du thèse Dodji Amouzouvi. Et quand on parle de l'eau, c'est Vodou Tokosu. Quand on parle de l'air, c'est dans Aido Wedo. Et quand on parle du feu, c'est bien sûr Femiusu. Donc, l'homme est composé de quatre éléments prépondérants et donc chacun de ces quatre éléments prépondérants est du vaudou. Donc on ne parle pas du vaudou dans le passé ou dans la société moderne, non. On parle du vaudou parce que l'homme est vaudou et tant que l'homme va exister, le vaudou existera. Le vaudou disparaîtra le jour où aucun être humain ne sera plus sur la terre.
Le professeur Dodji Amouzouvi est avec nous. Professeur Amouzouvi, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir aux amis auditeurs de la Voix de l'Amérique. Bonsoir, mon cher ami et cher collègue Florent Estache Resto.
Merci d'être avec nous. Professeur Amouzouvi, vous, en tant que
intellectuelle, comment vous considérez la stigmatisation associée au vaudou et quelles sont les implications sociales de cette stigmatisation dans les contextes actuels, globalisés?
Je vous remercie pour la question que vous me posez. Avant de répondre à la question, je voudrais dire un mot de plus à ce que vient de dire mon collègue Etache Florent Ressou, Dr Ressou, pour dire en réalité que le vaudou en tant que divin, en tant que dieu, est atemporel. Et parce qu'il est atemporel, il se retrouve dans l'humanité. L'homme étant matière et esprit, tout homme, en tout cas, l'homme béninois, l'homme négro-africain, étant matière et esprit, la déité, le divin, le vaudou, c'est ça qui relève de l'esprit. C'est donc un engendrement, une incarnation du vaudou qui s'occupe de cette partie invisible, de cette partie atemporelle, de cette partie spirituelle et éternelle en nous. Il a dit d'hier à aujourd'hui, de tout temps, depuis que l'homme s'est émerveillé de se retrouver dans le monde et a fait poser la question de savoir qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous, que nous est-il permis d'espérer. Il a trouvé la réponse spirituelle dans le vaudou. Donc, il n'y a pas à classer le vaudou dans une posture traditionnelle face à une posture moderne. Cette stigmatisation, pour revenir à votre question, cette stigmatisation relève de la toute première rencontre du Bénin, du monde africain, avec le monde occidental. La rencontre avec le colon blanc, le colonisateur blanc français, missionnaire catholique, n'a pas été du tout juste, honnête et véridique. Parce que les missionnaires qui sont venus, ils sont venus avec leur spiritualité. Ils n'avaient aucun intérêt à dire ce que c'est que le vaudou. Je ne demande même pas qu'ils fassent la promotion du vaudou. Mais ils n'avaient aucun intérêt à le dire. Ils ont donc affublé le vaudou de toute la négativité qui existe, de tout le mauvais qui existe. Ils ont servi de ça comme élément de prosélytisme. Pour gagner des âmes, souvenez-vous, parcourir toute la terre de toutes les nations, faites des disciples, à n'importe quel prix. Et le prix avec le vaudou, c'est de le stigmatiser. Cette stigmatisation est restée jusqu'à aujourd'hui, où des Béninois, des Africains de bonne foi, pensent que la spiritualité de leurs ancêtres, leur spiritualité donc, est diabolique. Leur spiritualité est satanique. Et ils commettent une erreur fondamentale. Simplement parce que le diable, le Satan, le démon sont tous des enfants du Dieu Père, Fils, Saint-Esprit que nous connaissons dans la Bible. Ce sont les enfants déchus, c'est des anges déchus. Donc, si aujourd'hui il y a ces démons, il faut encore retourner dans la chrétienté pour aller le chercher dans la parole de Dieu qui serait la Bible pour aller chercher cela. Cette stigmatisation avec l'école étrangère, vous savez très bien que les écoles étrangères ont été implantées au début par les missionnaires, a été un vecteur pour drainer toute ces informations-là. Conclusion, c'est rester dans le subconscient, c'est rester dans la mémoire d'un certain nombre de gens malgré les déconstructions que nous sommes en train d'apporter. Vous avez dit quelles sont les conséquences. Les conséquences sont désastreuses parce que ça désarticule le Béninois. Ça déstructure le Béninois, le négro-africain que nous sommes. Parce que nous ne sommes plus, ou pas nous, ceux qui aujourd'hui se sont ouverts à d'autres religions sans être suffisamment raffinés et implantés dans la leur. Ils sont, excusez, ce que moi j'appelle des chauves-souris humaines. Ils ne sont plus ce qu'ils devraient être en étant fils de leur père et de leurs ancêtres, fils de leur tradition, qu'est le vaudou. ils ont abandonné le vaudou, ils sont allés vers d'autres religions, vers d'autres dieux. Ils ne seront jamais fidèles de ces dieux à proprement parler, puisque c'est des dieux d'empereur. Ils restent donc entre les deux eaux. Ils font des rêves médiocres. Et comme De Gaulle l'avait dit, les rêves médiocres, c'est les rêves les plus difficiles à être accomplis. Et lorsque vous n'êtes plus vous-même, lorsque vous n'êtes pas enraciné dans votre tradition, dans votre spiritualité, dans votre culture, il vous manque un élément essentiel que l'esprit vous apporte. Et donc, vous êtes unijambiste, vous êtes diminué, et vous ne pouvez plus contribuer au développement de votre pays. Voilà les conséquences. Vous avez honte de vous-même.
Monsieur Amouzouvi,
vous êtes allé dans un complexe.
Oui, monsieur Amouzouvi, il faut aussi reconnaître qu'il y a une certaine liberté religieuse qu'il faut respecter. On ne va pas aborder cet aspect-là. Florent Eustache Ressou, y a-t-il des aspects spécifiques du vaudou que vous, en tant qu'intellectuel, vous identifiez comme particulièrement enrichissant d'un point de vue culturel ou spirituel, et comment cela influence-t-il votre propre compréhension de la spiritualité?
Je n'ai pas, la question est longue, veuillez me la repréciser pour que je puisse mieux la comprendre.
Oui, y a-t-il des aspects spécifiques du vaudou que vous, en tant qu'intellectuel, vous identifiez comme particulièrement enrichissant d'un point de vue culturel ou spirituel?
Non, mais si vous le dites, c'est comme s'il y a des aspects qui ne sont pas enrichissants. De toutes les façons, je crois que mon patron a dit l'essentiel, je ne vais que renchérir un peu ce qui a été dit. C'est-à-dire que l'aspect, quand vous me demandez s'il y a des aspects enrichissants, c'est que l'idéologie coloniale nous a mis tellement de négations qu'on se demande s'il y a des aspects enrichissants ou pas. Puisqu'on ne nous a montré que des aspects diaboliques, des aspects sataniques et tout ce qui est négatif. Vous comprenez? Donc je comprends maintenant votre question lorsque vous demandez s'il y a des trucs enrichissants. On ne peut pas, lorsqu'on prend le vaudou aujourd'hui, le vaudou, on dit vaudou hier, oui. Quand on dit vaudou hier, oui, c'est le soleil de l'ombre. C'est-à-dire, c'est ce que les yeux ne voient pas et qui existe. Quand vous prenez l'humain, comme l'a dit Hermès Trismégiste, c'est la combinaison de l'esprit et de la matière. Et donc, c'est le vaudou qui nous permet de traverser la matière, puisque la matière est pauvre, il y a plein de choses qui sont au-delà du regard. Et lorsque on veut aller au-delà, lorsqu'on veut parler de la combinaison, et lorsqu'on veut parler du dialogue entre l'ici et l'ailleurs, on ne peut que considérer le vaudou. Parce que Mustapha Diabaté a conclu qu'en réalité, l'Afrique a une culture riche. Parce que ce continent considère qu'il y a deux mondes. Il y a le monde du visible et le monde de l'invisible. Et c'est grâce au vaudou, c'est grâce à la culture vaudou, c'est grâce à la spiritualité vaudou, c'est grâce à l'éducation du vaudou que l'être humain a ce contact-là, a cette connexion. C'est ça qui donne suffisamment de mots d'unité ou de crédit à l'être humain pour être connecté, n'est-ce pas, à l'invisible. Puisque sans l'invisible, rien n'est possible. Quand vous prenez les grands savants du monde entier, ils sont des sorciers, des magiciens. On n'a pas beaucoup de temps parce que l'émission est suffisamment courte et on ne pourra pas développer tout ça. Mais je veux juste vous dire que lorsque vous prenez, par exemple, l'informatique, c'est à base pas et puisque c'est le système binaire et le système élocté. Quand on parle de ça, le ça implique une certaine collaboration avec les vaudous qui sont un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'entités, un certain nombre d'éléments d'accompagnement pour l'efficacité du ça. Aujourd'hui, l'Africain, même tout le monde, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, nous l'avons soutenu tous les deux, c'est qu'on
le vaudou n'est pas classable. On n'a pas à dire quels sont les points enrichissants et quels sont les points qui ne sont pas enrichissants. Non. On est vaudou. Nous respirons vaudou. La respiration, c'est le vaudou. Notre existence, c'est le vaudou. La chaleur qu'il y a dans notre corps, c'est le vaudou. Et comme l'a dit l'autre, et on a dit, lorsqu'ils sont venus, nous avions nos terres et ils avaient leur Bible. Ils nous ont dit de fermer les yeux. Et quand nous avons ouvert les yeux, ils avaient nos terres et nous avons leur Bible.
Professeur Risso.
On parle de terre, on parle de Sakata, on parle de ce sur quoi nous existons. On parle de notre être-té, on parle de notre existence, on parle de ce qui nous détermine. Donc le vaudou, ce n'est pas à marchander, c'est que ce que l'homme est dans la vie s'explique par l'existence du vaudou et sa collaboration avec le vaudou.
Merci, professeur Risso. On va essayer d'être très bref dans les réponses pour pouvoir aborder plusieurs questions. L'émission, c'est le dialogue des religions. Nous parlons de la perception du vaudou par l'intellectuel. Professeur Amouzouvi, comment vous percevez, le rôle du vaudou dans la construction de l'identité individuelle et collective, en particulier dans des sociétés où d'autres systèmes de croyances coexistent?
Très bien. Je vous remercie pour la question que vous me posez. Merci à ma collègue Florent pour avoir abordé tout à l'heure les points qu'il a abordés. Je voudrais rebondir justement sur la question de la liberté religieuse. Mais qui est libre? Avant d'être libre de choisir la religion de son choix.
Nous avons un problème de connexion téléphonique avec notre invité, le professeur Dodji Amouzouvi. On va essayer de rétablir le contact. Professeur Risso, vous êtes encore là, vous m'entendez? Professeur Risso, vous êtes encore là?
Oui,
en attendant qu'on rétablisse la connexion avec le professeur Amouzouvi plutôt, dans quelle mesure la sorcellerie est-elle intégrée dans les perceptions intellectuelles du vaudou?
Écoutez, nous allons partir, nous allons nous entendre d'abord sur ce que vous appelez sorcellerie. Je ne vais pas vous retourner la question, sinon ça va faire pas intéressant. Alors, nous avons eu des définitions effrayantes de la sorcellerie. La sorcellerie, ça mange, la sorcellerie anti-développement, la sorcellerie empêche le développement. Mais nous, moi, et je remercie mon directeur de thèse avec qui j'ai du plaisir à faire ce débat, on m'a permis de déconstruire cette définition coloniale de la sorcellerie et de montrer qu'en réalité, tout ce qui est brillant, tout ce qui est intéressant se fait avec ce que les gens appellent sorcellerie et que nous on appelle avé. Avé en français, ça veut dire tu as pris. C'est ce que chacun prend pour pouvoir fonctionner. Et quand je prends par exemple, regardez, nous sommes en pleine Coupe d'Afrique des Nations, regardez ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans cette canne-là, regardez les résultats, regardez les joueurs. Je prends par exemple l'équipe du Cap-Vert. Alors, l'équipe du Cap-Vert, quels ont été les éléments motivateurs, les éléments qui leur ont permis aujourd'hui de mettre à genoux un certain nombre de pays? Eh bien, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui explique leur excellence, qui explique leur prépondérance, qui explique leur quelque chose d'inédit qu'ils ont. Donc, en réalité, lorsque vous prenez la définition que les francophones donnent à la sorcellerie, c'est totalement négatif. Mais lorsqu'on va chez les anglophones, eh bien, c'est moins sauvage, c'est moins dur à prendre. Conclusion, la sorcellerie, nous, en tout cas moi, et aujourd'hui dans notre travail de déconstruction de ce terme au niveau de laboratoire de recherche espace développement, religion, espace et développement de l'Abomé Calavi, c'est de redéfinir ce concept afin de l'utiliser pour le développement. Parce que nous sommes en sociologie de développement. Nous avons rencontré un vieux qui a dit « Rien de brillant ne peut se faire sans la sorcellerie. La richesse, c'est la sorcellerie. Tout ce qui est bon, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie qui est mauvaise, mais c'est l'être humain, et ça peut se trouver partout que l'être humain, avec la connaissance qu'il a, utilise pour faire du bien ou pour faire du mal. » Conclusion, tout ce qui brille, tout ce qui est important, et la preuve, c'est que certains entraîneurs africains les appellent sorciers blancs. Quand on dit sorcier blanc, oui, on perçoit ça. Mais quand on voit ma vieille du village qu'on appelle sorcière, eh bien tout le monde suit parce qu'on nous a mis dans la tête que nous, notre culture doit être déconstruite, doit être noircie par cette expression-là. Et donc, il faut déconstruire la définition qu'on nous donne pour pouvoir utiliser ce que nous avons de brillant pour le développement.
Donc, selon vous, il y a des perceptions erronées entourant le voodoo. Comment les démystifier et comment promouvoir une compréhension plus nuancée au sein de la société moderne, une compréhension du vodou?
Non, mais ça a commencé.
Oui.
Ça a commencé, je vais prendre comme illustration les vaudounais. Et je salue mon professeur qui est un membre influent de ça, ce qui est juste, parce qu'il est spécialiste du vaudou. Il est incontournable lorsqu'on parle du vaudou. Et moi, j'ai été à Ouida du 6 au 10, mais venez à Ouida, tu ne peux pas circuler en voiture. Et c'est comme si la colonisation a changé de camp. C'est maintenant les Européens, les Américains qui sont venus à la source. On peut dire que Ouida était devenu tout simplement multicolore. L'univers entier a pris quartier à Ouida. Il n'y avait pas possibilité de marcher. Ouida était devenu trop petit pour toutes les personnes qui sont venues pour vivre le vaudou. Il y a même, j'ai vu un Européen tagué sur son corps, vive l'Afrique. Et regardez tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, même en matière de politique, la déconstruction de tout ce qui est politique, le refus, n'est-ce pas, d'une certaine mémise sauvage que nous collons sur nous, et tout ça avec la spiritualité vaudou, je vous jure que bientôt, l'Afrique aura des leçons. Pour ne pas dire le vaudou aura des leçons, la spiritualité vaudou aura des leçons à donner aux gens. De toutes les façons, ça s'impose déjà, et je suis sûr qu'aux prochaines éditions du vaudou, la voix de l'Amérique sera là pour voir ce dont je parle.
La voix de l'Amérique était là, je vous le signale. Nous avons établi le contact avec le professeur Amzouvi. Il nous reste 1:30 avant la fin de cette émission. Professeur, comment envisagez-vous l'avenir de la relation entre le vaudou et l'intellectualisme?
Entre le vaudou et l'intellectualisme, il n'y a pas envisagé une relation, puisque c'est entre le vaudou et le vaudoufi, entre le vaudou et son fidèle, entre le vaudou et son dignitaire, entre le vaudou et les autres qui le regardent. Ce n'est pas une question d'intellectuel d'abord, c'est une question de foi. Elle est personnelle et ça se vit intensément. Maintenant, si vous m'orientez vers le dialogue interreligieux, je dirais simplement, il y a à ce que chaque obédience religieuse au Bénin et en Afrique parle pour sa paroisse, prêche pour son Dieu, dise simplement, mon Dieu est l'unique et le meilleur. Ainsi, chacun respectera l'autre et nous évoluerons. Mais lorsque une obédience religieuse quitte son couloir et vient dire sa place, du vaudou, ce que c'est que le vaudou, ça crée des clashs, ça pose un problème. Parce que la Constitution donnait la liberté à chacun et personne ne doit aller empiéter sur la place bande de l'autre. Je trouve donc, avec tout le retour et tout le recours qui se fait aujourd'hui,
en discount. Nous l'avons perdu malheureusement. Merci d'avoir suivi cette édition de Dialogue des religions. On parlait de la perception du vaudou. Merci au professeur Dodji Amouzouvi et au professeur Florent Eustache Rissou pour vos différentes contributions et vos analyses, vos perspectives. Eric Mandelakis était avec vous. À la prochaine.